12h30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur les avions. Les avions génèrent 2 à 3% des émissions de dioxyde de carbone mondiale et pendant ce temps, l'industrie espère doubler le nombre de voyageurs aériens. Les acteurs français se sont penchés sur la réduction de l'empreinte écologique de nos avions, avions hybrides, sièges plus léger ou piloté pour réduire la consommation de carburant. Nous découvrirons ces solutions qui contribuent à leur mesure à la réduction de l'empreinte écologique de l'avion. C'est une tannerie qui date de la Révolution française. Le gant est sa spécialité, mais ce sont aujourd'hui des gants de protection. C'est une entreprise familiale. Rostin est l'entreprise qui va bien, merci. Partir en vacances avec son bébé, mais sans partir avec une dizaine de valises. Gypsy Baby est la solution et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
Tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Pour les accueillir dans le studio Lagardère, François Geffrier, du service économie d'Europe 1, pour nous éclairer pendant toute l'émission. Notre coach du jour, Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous, président de Voyageurs du Monde. Un avion silencieux, plus écologique, plus sûr grâce au moteur, c'est l'objectif de l'avion du futur. Bonjour Jean Botti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Voltaero. Voltaero, c'est votre entreprise qui a conçu cet avion de tourisme hybride.
Oui, c'est ça.
Alors vous, Jean Botti, vous étiez, il y a quelques années, le patron de l'innovation chez Airbus. Et c'est vous qui aviez notamment lancé les projets électriques pour Airbus, notamment le projet IFAN. Donc vous êtes sensible à toute cette question.
Bien sûr. C'est la continuité de ce que j'avais commencé chez Airbus.
Vous aviez fait, je crois, un vol historique en 2015, dans une traversée de la Manche avec un petit avion électrique dans le cadre de ce programme. Et en 2016, Airbus a décidé d'arrêter ce projet. Vous vous êtes dit, mais nous, on a un temps d'avance, hein, on a un savoir-faire, on ne va pas le laisser tomber. Vous êtes allé chercher l'équipe avec laquelle vous travaillez chez Airbus et vous vous êtes dit, on va concevoir un avion hybride commercial.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Racontez-nous.
Eh bien, écoutez, avec donc l'équipe, avec beaucoup de membres de l'équipe originale, donc on a recréé une Voltaero.
Donc une entreprise. Hein.
Voilà, qui est installée en Aquitaine. Hein. On est à Royan, là où on avait conçu à l'origine IFAN.
Le projet Airbus.
Le projet Airbus. Et on a décidé de continuer, de le faire plus beau, plus grand. Donc, on est passé de 2 sièges à l'époque. Hein. C'était le premier, on avait fait le vol du mois de juillet. Historique.
En 2015, oui.
Voilà, c'est ça. Et là, on va voler cette année avec un démonstrateur de notre avion qui sera un avion qui peut faire 4, 6 et 9 places.
Donc 4, 6, 9 places, je crois une envergure de 12 mètres.
Hein. C'est ça.
Et avec une autonomie de...
Alors, on a 3h30 okay, d'autonomie, mais on peut aller jusqu'à 5 heures en ajoutant des réservoirs additionnels. Mais aujourd'hui, on vise les 3h30 parce qu'on pense qu'on peut faire... point à point, toute l'Europe, on peut bien couvrir l'Europe et puis même aux États-Unis, c'est à peu près le temps qu'il faut.
Alors tout ça, ça fait rêver. Alors tout ça est possible grâce à une propulsion hybride électrique. Alors il faut nous raconter, nous décrire ce que c'est.
C'est ça. Donc bien sûr, si on n'était qu'en électrique, on n'aurait pas ce genre d'autonomie. Donc il fallait rester la technologie actuelle. On doit rester dans de l'hybridation. Mais quand on pense à ça et qu'on réfléchit bien, c'est même un avantage parce que cette hybridation, elle permet d'avoir deux modes de propulsion, un électrique et un mécanique. Eh bien, quand vous avez ça, vous avez une sécurité supplémentaire.
Exact.
Parce que si vous avez un problème dans l'énergie électrique, vous pouvez utiliser le mécanique. Quand vous avez un problème sur le mécanique, vous pouvez utiliser l'électrique.
Donc, c'est même plus sûr qu'un avion classique aujourd'hui.
Absolument. Absolument, il n'y a pas d'avion aujourd'hui.
Ça réduit combien la consommation ?
Entre 13 et 17% sur le site.
Entre 13 et 17%. Ouais, pas plus que ça.
Pardon ?
Pas plus que ça.
En supposant que vous avez des structures qui sont toutes en composite. Quoi, hein. Donc, mais c'est déjà beaucoup hein, quand vous regardez 13 à 17%, ça vous réduit quand même énormément. Parce que vous savez, il faut bien voir que vous ajoutez le poids des batteries. Vous ajoutez bien tout sûr, un poids sûr, supplémentaire. Sûr, donc, sûr. Être capable de ramener 13 à 17% avec un poids supplémentaire de 350 kg, c'est déjà pas mal.
Et à votre avis, avec la vision que vous avez à moyen terme, et des évolutions technologiques, jusqu'à quel pourcentage, d'ici 10 ans, vous pensez qu'on peut viser en termes de réduction ?
Ah bah, je crois qu'on peut le doubler.
Donc vous pouvez passer à 35%, quoi.
Je pense qu'on pourra le doubler, parce qu'avec l'évolution, tout réside dans le... dans l'évolution des batteries, en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que là, aujourd'hui, c'est des batteries de lithium.
Ce sont des batteries au lithium.
Mais ça ne prend pas plus souvent feu, les batteries
Alors ça se gère. Hein. Ça se gère. Il faut bien sûr gérer toute la thermique de la batterie. Ça ne se fait pas... vous savez, ce n'est pas très simple. Nous, on a 13 ans d'expérience derrière nous. Quand on a commencé avec le Cricri, ensuite on a fait IFAN. Donc l'équipe une grosse expérience sur le traitement des batteries, comment les intégrer dans le système.
Ouais,
ça, c'est très important.
Donc, il décolle et il atterrit avec l'énergie électrique.
Absolument.
C'est ça. Et quand il atteint la vitesse de croisière, là, ce qui est hyper ingénieux, c'est que le moteur se déclenche pour recharger les batteries pour l'atterrissage.
Absolument. Absolument. Et donc, il vous recharge la batterie en vol. Et ensuite, on redécharge la batterie. On veut profiter au maximum de la charge et de la décharge de la batterie.
Et dites-moi... Moi, j'ai plein de questions, parce que c'est évidemment passionnant pour mon métier. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait mixer agrocarburant et batterie électrique ?
Totalement.
Donc là, on serait en plus au sommet de la gloire. Là.
Ah ouais, non, mais là, on est totalement compatible avec des biocarburants.
Voilà.
Donc il n'y a pas de doute là.
Ok, et une autre question. Comment Airbus a-t-il pu vous abandonner avec les enjeux majeurs auxquels l'industrie aérienne doit faire face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a...
L'urgence majeure.
Aujourd'hui, on a toutes les activités qui émettent du CO2, mais il y en a quand même deux qui sont pointées du doigt, l'avion et la viande. Et en plus, l'avion, on dit c'est 3%, mais en réalité, c'est vrai que c'est 3%, mais on sait que ça va devenir très vite 7, 8, 10, 15%. Et puis, ramener à l'individu, c'est énorme. Comment Airbus peut-il être aussi à côté de la plaque sur le plan stratégique ?
Alors, Airbus n'était pas à côté de la plaque.
Mais vous en avez quand même.
Alors, Airbus a décidé de partir sur un avion tout de suite beaucoup plus gros. Okay.
Électrique.
Hybride électrique.
Hybride électrique.
Mais beaucoup plus gros, vous voyez.
Beaucoup plus gros.
Et nous, dans l'équipe, comme ce projet-là original d'IFAN a été arrêté, j'ai décidé de suivre plutôt une feuille de route qui est plutôt progressive. Et je pense que le 6, 9, 10 places est beaucoup plus raisonnable à l'heure actuelle que de faire un 100 places directement. Voilà.
François, justement, vous avez trouvé d'autres exemples d'avions électriques, d'avions hybrides.
Jean-François Rial parlait d'agrocarburant. Je crois que ça s'applique au projet Eraol, que vous connaissez peut-être, énergie solaire sur des cellules photovoltaïques sur les ailes de l'avion, plus de l'huile végétale qui alimente un moteur thermique, et puis de l'hydrogène produit en vol par hydrolyse. Et ce projet vise à essayer de faire la traversée New York-Paris, donc 5800 km d'une seule traite évidemment. Aujourd'hui, ils volent déjà pour des tests courts. À terme, sur le papier, ils pourraient voler jusqu'à 70 heures d'affilée à 100 km/h. Donc, c'est évidemment très lent. Donc, c'est pour ça que la traversée de New York à Paris prendrait plusieurs jours.
Oui, alors nous, ce n'est pas du tout notre créneau. Hein. Nous, on vise déjà les 200 nœuds, c'est-à-dire 360 km/h.
Vous allez petit à petit, hein, on l'entend.
Ah non, non, là...
Progressivement.
Là, on est l'avion tel qu'il va être présenté au Bourget, c'est-à-dire le conseil et le vol de cette année, nous amèneront un avion qui, d'un point de vue commercial, sera déjà avec une visée à 200 nœuds, 3h30 d'autonomie, enfin tout ce que je vous ai raconté.
Et on peut envisager, pour les clients lambda, on peut envisager d'y aller quand dans votre avion ?
Le premier avion, on envisage de le produire en 2022. Donc, vous voyez, c'est pas si loin.
Non, c'est dans très 2022. Peu de temps.
2022.
Et votre horizon commercial, c'est de vendre combien de machines ?
150 à terme. C'est-à-dire qu'on commencerait la première année une trentaine d'avions, la deuxième 90, la troisième 150. Et après, sur une lancée de 150.
On reste ensemble, on continue à parler des solutions françaises pour réduire l'empreinte écologique des avions. Quand l'aviation se réinvente avec des innovations françaises, on parle d'une solution logicielle pour réduire l'empreinte écologique des vols aériens. Ça s'appelle Open Airlines.
Oui, l'enjeu est double pour les compagnies. D'abord, réduire leur impact environnemental face à l'urgence climatique, mais aussi un enjeu économique, puisque par exemple, le carburant représente 30% des coûts d'une compagnie aérienne. Alors, face à cela, il existe des logiciels performants mis au point par une entreprise toulousaine. Bonjour Alexandre Ferré.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Open Airlines. Open Airlines aide les compagnies aériennes à utiliser moins de carburant, c'est-à-dire ?
Oui, en fait, on a développé un logiciel qui est basé sur le Big Data. En fait, on récupère toutes les données qu'il y a dans les boîtes noires, des données météo, données plans de vol. Mais au lieu de les analyser pour la sécurité des vols, ce dont on tient compte quand même, on analyse pour l'efficacité du vol et la réduction de carburant et d'émissions de CO2.
Alors, l'idée vous est venue il y a une dizaine d'années. Hein. Vous êtes dans l'informatique, vous aviez travaillé chez Air France. Et c'est une réglementation en 2010 qui va un peu déterminer, j'ai envie de dire, votre business, hein, votre entreprise. Cette réglementation 2010 obligeait les compagnies aériennes à déclarer leurs émissions de CO2. Donc là, vous avez voulu aider les compagnies à faire ce calcul et étonnamment, énormément de compagnies vous ont dit que ça les intéressait aussi de réduire les émissions de CO2 pour l'intérêt environnemental, mais aussi pour l'intérêt économique.
Oui, tout à fait. Au début, on a essayé de les aider pour cette déclaration obligatoire de CO2 et compensation. Et puis, on s'est aperçu que plutôt que les aider dans la déclaration, c'est mieux de les aider à réduire leurs émissions parce que c'est autant de réduction de carburant qui est leur premier poste de coût, comme vous avez dit, et autant de réduction de CO2 qui est désormais taxé en Europe.
Alors, votre logiciel est né en 2014. Hein. Il y a eu près de 4 années de recherche et développement. Et ce sont des algorithmes qui entrent en jeu parce que grâce à ces algorithmes, et après l'étude des boîtes noires des avions, vous pouvez vous apercevoir des moments où pendant le vol, où la conduite peut être améliorée, diminuée. Comment ça se passe ?
Oui,
on a du mal à imaginer.
Oui, parce que c'est un petit peu abstrait, c'est digital, mais en fait, on récupère toutes les données des boîtes noires et d'autres informations. Il y a des centaines de données qui sont récupérées sur chaque seconde de vol. Et après, on utilise des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour voir si dans la préparation de l'avion, dans la préparation du vol ou dans l'exécution, on pouvait optimiser le vol.
Donc vous intervenez même en amont, avant le décollage.
Oui, on va donner souvent un briefing pour les pilotes, pour les
Mais
préparer.
Mais avec quel type
en fait.
D'informations ?
Alors, ça peut concerner par exemple le choix des routes. En fait, en fonction de la météo ou de l'heure de la journée, il y a des routes qui vont être plus encombrées. Donc l'avion va voler peut-être pas au niveau de vol optimal, va tourner à l'atterrissage avant d'arriver à l'aéroport. Et la meilleure route qui est sur le papier, c'est peut-être pas la meilleure dans les conditions réelles.
Et vous êtes en conditions réelles.
Donc on leur donne ces informations-là.
Jean-François.
Et alors, on peut gagner combien en économie d'émissions de CO2 ou de carburant, ce qui est pareil ?
Donc ça va être assez variable selon le réseau, mais en gros, c'est en général de 2 à 5%.
Donc c'est alors beaucoup ça peut paraître peu, mais mis à l'échelle de tous les avions, c'est énorme.
Voilà, c'est pas autant évidemment qu'un changement de technologie comme l'électrique, mais... Voilà, on peut passer à l'échelle sur tous les avions existants parce que ça ne demande aucune modification sur l'avion existant. Et là, c'est énorme, en effet.
Et vous avez des grosses majors, là, comme clients?
Alors, voilà, vos clients.
Alors, Air France, Lufthansa, British Airways, Emirates, ça les intéresse un peu?
Oui, ça les intéresse. On n'a pas ces noms-là, mais on a quand même, aujourd'hui, on a une trentaine de, de compagnies. On a beaucoup de low-cost, par exemple Norwegian, ou en France, Transavia et Hop. On est en train de faire un essai avec Air France. Donc oui, ça les intéresse évidemment parce qu'il y a l'impact économique, comme on disait, et puis ils sentent qu'il y a une menace par rapport à l'environnement et il faut qu'ils montrent qu'ils agissent.
Mais il faut préciser que vous n'ajoutez aucun équipement hein, sur l'avion. C'est sur un iPad qui est relié à votre système et le pilote s'organise en fonction de vos recommandations.
Exactement, c'est pour ça que l'impact peut être rapide parce qu'on a un impact sur la flotte existante, quel que soit le type avion, s'il a 10 ans, s'il a 15 ans, c'est la même chose.
Et puis comme vous êtes au début de l'outil, il va progresser cet outil. Il va y avoir plus de données, il va y avoir plus de savoir-faire.
Oui.
Donc vous devez pouvoir gagner encore un peu plus, non ?
Oui, il progresse.
Non, pas de clients. Enfin, de clients, si, bien sûr. Vous avez raison, Elisabeth.
D'efficacité.
Mais surtout d'efficacité. Mm-hmm. C'est-à-dire que votre 2-3%, ça va peut-être être 7-8 dans 10 ans, quoi.
Non, mais en effet, il progresse, je dirais, tous les jours. On livre d'ailleurs des nouvelles versions toutes les 3 semaines à nos clients. Donc toutes les 3 semaines.
Une mise à jour toutes les 3 semaines.
Toutes les 3 semaines, ils ont des améliorations.
Vous allez forcément faire mieux.
Ouais.
Parce que si on cumule ce que vous faites, plus au sol des moteurs électriques, sans parler de la technologie de Jean tout à l'heure, on peut quand même gagner énormément hein, en cumulant tout ça. Hein.
Oui, puis on agit en fait, c'est un peu la chasse au gaspille. Quoi. On agit sur l'énergie la moins coûteuse à économiser, c'est celle qu'on gaspille.
François, on parle d'énergie la moins coûteuse. Justement, l'aérien, vous avez quelques chiffres en termes de pollution. Hein. Ça pollue comment l'aérien ?
Alors, c'est 4 millions de tonnes de CO2 émises. Ça, c'était en une seule journée. C'était 200 000 vols qui avaient eu lieu, je crois que c'était fin juin. C'était un record de le nombre de vols en une seule journée, 200 000 vols. Et donc, 4 millions de tonnes de CO2. Parce que ce trafic, il est en plein boom, on l'a dit. Hein, 1 milliard et demi de passagers il y a 15 ans. 4 milliards et demi à peu près d'ici 2020. Et puis, d'ici 2050, ça va encore tripler. On sait qu'on doit fabriquer 42 000 avions de ligne d'ici 20 ans pour subvenir à cette demande qui augmente, je crois, de 5% par an. Sachant qu'effectivement, quand on compare les différents modes de transport, alors les calculs sont toujours un petit peu approximatifs ou dépendent des conditions dans lesquelles ça se fait, mais en train, on émet 14 grammes de CO2 par passager au kilomètre, en voiture 104 grammes et en avion 285 grammes. Ça dépend évidemment du nombre de passagers qu'on met dans l'avion.
Alexandre Ferré, Open Airlines, au début, vous étiez 4. Aujourd'hui, vous êtes 43 salariés.
Oui.
Ça va être quoi la suite?
Je pense qu'on a encore beaucoup de possibilités, en effet. Hein. On améliore en permanence le logiciel. On regarde comment aussi le logiciel peut servir à optimiser le contrôle aérien. Et on a déjà des clients qui l'utilisent pour discuter avec les autorités. À Dubaï, par exemple, il y a eu des modifications en leur faisant comprendre en fait, quelles modifications des approches pouvaient avoir un impact sur le carburant et le CO2.
Vous travaillez avec les compagnies avec des abonnements, j'ai vu ça.
Oui.
Donc, c'est original.
Oui, c'est un modèle d'abonnement. Du coup, ça nous pousse justement à améliorer le logiciel.
Parce qu'à chaque
permanent.
Fois, vous devez vous remettre en question si on ne renouvelle pas l'abonnement.
Exactement. Puis, je dirais aussi...
Il y a un modèle économique qui est lié à la performance.
On le propose parfois, mais c'est plutôt un prix fixe par
D'accord.
avion. Mais c'est assez proportionnel, évidemment, à ce qu'on leur apporte comme gain. Mais on serait capable, hein, si une compagnie est plus sceptique, d'offrir un modèle basé sur la performance.
Je pense que ça serait pas mal, parce que pour les motiver, il n'y a rien de mieux. Ça ne vous coûte rien. Et on fait gagner, payez que sur ce qu'on gagne. Quoi.
Puis on est très sûr de nous parce qu'on a vu que, on constate, on mesure ce qu'économisent nos clients et en effet, on atteint les chiffres qu'on revendique.
Allez, on reste ensemble sur Europe 1 à parler des avions et nous répondrons à cette question, comment réduire l'empreinte écologique de nos avions.
Il est 13h22.
Europe 1, Elisabeth Assayas.
Justement, pour réduire l'empreinte écologique, pourquoi ne pas faire des avions plus légers? C'est l'idée d'Explicit qui a conçu des sièges d'avions ultra légers.
Elisabeth Assayac dans La France Bouge, on innove dans le domaine de l'aviation avec des sièges ultra légers.
Des inventions et des solutions avec le fauteuil d'avion le plus léger du monde. Bonjour Amaury Barbero.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président en charge des opérations d'Explicit. Explicit, c'est E-X-P-L-I-S-E-A-T, hein,
oui.
Petit jeu de mots. Vous avez réussi à diviser par deux le poids des fauteuils classiques que l'on trouve dans les avions. Comment vous y êtes pris?
Donc effectivement, on a divisé la masse des sièges par deux. Un siège standard pèse en moyenne 10 kg et nous, on fait des sièges de 5 kg. Donc ramené à la taille d'un avion de 200 passagers, on fait économiser à l'avion à peu près une tonne. Cette innovation vient de deux points essentiels. On a développé des nouveaux matériaux qui sont aujourd'hui utilisés dans les structures d'avions.
Aujourd'hui, ce qui est utilisé, je crois que c'est de l'acier, de l'aluminium. Et vous avez remplacé par...
Exactement. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'acier et d'aluminium. Et nous, on a choisi de faire un concept hybride, pour faire un lien avec Voltaero, à base de composite et de titane.
Donc, une nouvelle matière. Et ensuite, j'imagine que vous êtes... Enfin, il y a eu énormément de métiers, de savoir-faire qui sont venus pour essayer de trouver le fauteuil parfait.
Oui, alors, on s'est appuyé sur deux choses. On s'est beaucoup appuyé sur la simulation numérique pour pouvoir développer des sièges qui soient très performants en termes de masse.
C'est-à-dire la simulation numérique?
En fait, on a signé un partenariat avec Google pour pouvoir avoir accès à leur ferme de serveurs et pour pouvoir faire énormément de simulations numériques avec une puissance de calcul très importante qu'en tant que petite entreprise, on n'aurait pas pu s'offrir nous-mêmes. Mmh. Et donc, on utilise cette capacité de calcul mise à disposition par Google pour arriver à chercher un optimum de masse. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que on a la chance de travailler en France qui est un grand territoire d'aéronautique. Et donc, on s'appuie également sur beaucoup de partenaires industriels basés en France et puis aussi sur les grands avionneurs qui nous soutiennent dans notre développement.
Alors aujourd'hui, ça peut paraître, je ne vais pas dire évident, mais ça va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission. Mais là, ça a commencé, vous, en 2011. L'entreprise a trois fondateurs. Hein, ce sont trois amis issus d'une école d'ingénieurs. Et ils étaient partis de ce constat, c'est qu'un avion, c'est très, très beau.
Oui.
Mais à l'intérieur, c'est pas la folie de l'innovation. Et vous êtes aller directement vers le siège. Parce que c'est le siège qui... Le siège fait dépenser, j'allais dire, plus de kérosène, plus de carburant.
Oui, donc effectivement...
Le poids de l'avion est important.
Le constat est venu d'un décalage entre les technologies qui sont utilisées dans les avions, la 350 d'Airbus avec tous les nouveaux matériaux qui sont utilisés, et les sièges d'avion qui, honnêtement, aujourd'hui, quand vous rentrez dans une cabine d'avion, ne font pas spécialement rêver en termes d'aspect. Donc le décalage vient de là. Le deuxième décalage qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la masse des sièges dans un avion représente de 5 à 10% de la masse de l'avion. Et donc, en divisant cette masse par deux, on est capable d'apporter un vrai incrément de performance à l'avion, et donc ça a aussi une réduction de la consommation de kérosène et donc d'émissions de CO2.
Vous avez tout repensé ?
Oui, donc on est parti d'une feuille blanche, et c'est ça aussi qui fait notre force aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dessiné le siège pour qu'il utilise au mieux les propriétés des nouveaux matériaux qu'on utilise.
C'est seulement pour des avions pour les classes économiques ?
Alors aujourd'hui, on développe que des sièges pour les classes économiques, mais qui volent sur plusieurs avions, sur des avions Bombardier, ATR, Airbus, Dassault. D'accord. Également.
Jean-François.
Et alors, même question qu'à vos deux collègues là. On gagne combien avec ça ?
Donc, on allège l'avion de une tonne.
Ouais, on l'a dit. Et en pourcentage de CO2, à votre avis ?
On estime ça entre à peu près le même ordre de grandeur, 2 à 5%.
Si on cumule les trois, là, quand même...
On révolutionne le marché.
On est pas mal, hein.
Ouais, bah là, on est en train de trouver l'avion de demain.
Ouais. Et le kérosène est directement proportionnel au poids, hein, la consommation. C'est directement proportionnel.
Oui.
Donc, on pourrait imaginer que vous décliniez votre idée géniale de siège sur d'autres éléments de l'avion, éventuellement, non ?
Alors, effectivement, on a une technologie, nous, aujourd'hui, d'allègement qu'on pourrait imaginer à terme utiliser sur d'autres parties que les simples sièges. Après, le siège a l'intérêt d'être présent en grand nombre dans un avion, par définition. Sûr. Et donc, c'est là où l'impact joue le plus.
Comment réagissent vos concurrents ? Parce que vous n'êtes pas les seuls sur ce marché à se dire, tiens, il faudrait qu'on change les sièges des avions.
Ouais. Alors, on n'est effectivement pas du tout les seuls. Il y a une vraie volonté de tout le marché d'alléger les sièges. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions qui sont proposées par nos concurrents, sur lesquels ils essayent d'inclure des nouveaux matériaux aussi, mais souvent en partant d'un siège déjà existant. Et donc aujourd'hui, il y a un petit allègement qui se fait par nos concurrents, mais rien à voir avec la division par deux qu'on peut proposer.
La durée de vie d'un siège dans un avion, c'est...
Alors, un avion a à peu près une durée de vie de 30 ans, mais les sièges sont en général changés tous les 8 ans.
Ah, donc il y a un marché.
Important.
François ?
Oui, je m'interrogeais parce que c'est vrai que le poids est un élément hyper important, mais on sait aussi que les compagnies aériennes remplissent leurs avions, les soutes, par du fret, c'est-à-dire transport de marchandises. Et si on a un peu de poids qui se libère d'un côté, elles vont peut-être le remplir par des marchandises d'entreprises pour faire de la livraison. Est-ce que vous croyez à la sincérité de leur discours écologique sur le poids ?
Alors, le business model d'origine d'Explicit était de vendre effectivement la réduction de fuel, mais en fait, on s'est rendu compte que l'allègement de l'avion permettait d'avoir d'autres intérêts et d'augmenter la performance de l'avion. Typiquement, un de nos clients, Air Tahiti, ils font décoller leurs avions sur des pistes qui sont très courtes, parce que sur des îlots, et aujourd'hui, ils ne pouvaient pas vendre tous les tickets de l'avion, parce que sinon, ils étaient trop lourds pour pouvoir décoller, avec le risque de se retrouver à l'eau à l'issue de la piste. Donc, ils laissaient 5, 10 places vides.
Ce qui n'était pas non plus très écologique.
Ce qui n'est pas très écologique, et grâce à notre allègement, Air Tahiti est en mesure de vendre 4 tickets supplémentaires. Donc ils ont les sièges, ils ont l'avion, mais ils devaient laisser les places vides. Et nous, on permet à ce que ces tickets soient vendus. Et ainsi, quand on ramène l'émission de CO2 au nombre de passagers qui volent, vous l'avez dit, ça fait évidemment descendre ce chiffre.
Une question qui n'a rien à voir avec l'avion, pour une fois. La pieuvre Google, qu'est-ce qu'elle vous demande en contrepartie du fait de vous donner
l'accès
à sa puissance de calcul délirante ? Parce qu'on les connaît, nos amis de Google. C'est pas des philanthropes, hein.
Ils font pas ça généreusement, déjà. Donc, on paye pour avoir cette capacité de calcul. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas donné, évidemment, de façon philanthropique.
Mais c'est pas du capital, par exemple.
Non, c'est pas du capital.
Ah, c'est déjà ça.
Allez, on reste ensemble. On continue à parler avion, climat et empreinte écologique. Vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag et ses invités, et on parle d'un secteur en pleine évolution, l'aviation face aux impératifs écologiques. Et oui, toujours avec le coach du jour, Jean-François Rial, le président de Voyageurs du Monde, avec François Geffrier, la rédaction d'Europe 1, et avec nous pour en parler, Jean Botti, le fondateur de Voltaero. Voltaero, c'est un avion de tourisme hybride. Alexandre Ferré, le fondateur d'Open Airlines, c'est une solution sous la forme d'un logiciel d'éco-pilotage pour réduire l'empreinte écologique pendant un vol. Et Amaury Barbero, vice-président en charge des opérations d'Explicit, ce sont des sièges d'avion ultra légers. Alors cette question à vous quatre, le transport aérien échappera-t-il encore longtemps à une taxe au nom de la lutte contre le réchauffement climatique ? Je dis vous quatre, car Jean-François Rial, vous êtes notre coach aujourd'hui, mais vous êtes aussi l'auteur d'une tribune parue dans Le Monde il y a quelques semaines, où vous, Jean-François, vous abordez clairement cette question et vous vous abordez ce que vous appelez une contribution planète pour, justement pour essayer de répondre à cette question.
Bah, disons que mon analyse est la suivante, c'est que les émissions de CO2 générées par l'aviation sont très importantes ramenées à chaque individu et vont devenir très importantes en proportion globale de la problématique du réchauffement climatique. Aujourd'hui c'est 3%, mais ça sera très vite beaucoup plus.
Ça va augmenter, oui.
Et la deuxième chose qu'il faut savoir sur l'industrie aérienne, c'est que contrairement à d'autres secteurs, la transition sera plus longue. Et elle sera probablement plus longue que le temps que nous donne le GIEC pour diviser par deux nos émissions 2030 et les supprimer 2050. En tout cas, elle aura du mal pour un tas de raisons, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jean qui évoquait son avion hybride électrique, à pouvoir transférer sur des solutions écologiquement propres le business actuel. Donc il y a deux, pour moi, il n'y a plus que deux solutions. Il y a une solution qui est celle des écologistes
on arrête tout.
Les plus brutaux qui consistent à dire qu'on arrête tout.
On arrête donc de prendre l'avion, c'est ça.
Et puis il y a celle que je propose. Je suis moi-même un écologiste extrêmement convaincu, mais je ne crois pas aux solutions de ce type qui ne seront de toute façon pas suivies par ni les États, ni les citoyens, etc. Et qui est ce que j'appelle une contribution planète, c'est-à-dire de mettre sur les billets d'avion un montant qui finance à la fois l'absorption du CO2 émis et la transition énergétique. Je dirais que pour moi, elle sera beaucoup plus efficace qu'une taxe, même si je ne suis pas contre l'idée de rajouter aussi une taxe, on y viendra. Mais la contribution planète, le gros intérêt qu'elle a, c'est qu'elle d'abord, elle n'est pas gérée par l'État, et deuxièmement, elle va directement dans un fonds qui absorbe des émissions de CO2 par des projets directs d'absorption de CO2 sur lesquels on va parvenir, ce serait trop long. Bon.
Vous parliez de...
Je dirais que pour finir, je pense qu'il faut faire sur l'industrie aérienne quatre choses. Un, il faut économiser. Donc, toutes les solutions de ces messieurs sont fantastiques. Et il faut même supprimer l'avion, pour moi, lorsqu'il y a des alternatives type train, etc., dans des délais raisonnables. Je ne suis pas très populaire auprès de mes confrères quand je dis ça, mais je le pense vraiment.
Patron voyageur du monde, oui, ça peut...
Il faut économiser. Il faut vraiment économiser. Deux, il faut absorber les conséquences du CO2 qu'on émet à 100%. Parce que vu la croissance, vu les discussions qui vont être techniques sur l'absorption, il faut le faire. Troisièmement, il faut financer la transition à fond. Parce qu'elle ne va même pas pouvoir se faire dans les délais qui sont évoqués, mais il faut au moins qu'à une période de 20, 25, 30 ans, on soit propre avec l'industrie aérienne. Et quatrièmement, si ce n'est pas suffisant, il faut effectivement mettre une taxe carbone qui aura l'énorme inconvénient de ne pas absorber le CO2 qu'on émet. Aujourd'hui, on parle d'une taxe carbone de 37, 47 euros à peu près par kilo de carbone. Le problème, c'est que les taxes sur l'industrie aérienne, elles ont été mises en place sur d'autres sujets et de façon très nombreuse. Elles dépassent très largement ce montant et elles n'ont pas du tout fait baisser la consommation et la croissance du trafic aérien. Donc la taxe carbone sur l'industrie aérienne, pour moi, ne suffira pas.
Donc vous venez nous exposer, Jean-François, vos quatre options. Qu'est-ce que vous répondez, Jean Botti, ou Alexandre Ferré, ou Amaury Barbero, à ce que vient de dire Jean-François?
Ben moi, je veux dire, Jean-Botti, avec mon partenaire Didier Sten, là, on a bien conscience de l'importance de l'écologie. C'est pour ça qu'on a fait cet avion.
Bien sûr.
C'est pour ça que ça fait 13 ans qu'on continue sur cet avion. Donc, on a développé ce qu'il faut. Pour répondre à Jean-François, moi, je prends le challenge aussi, dans certains cas, comme les liaisons en France Est-Ouest, qui sont très mauvaises avec les trains, qui sont très mauvaises avec l'automobile. Vous les faire aujourd'hui à un Bordeaux-Clermont-Ferrand, ou c'est extrêmement difficile. Ben nous, avec notre avion, pense qu'on peut le faire même pratiquement à 90% en électrique. Ouais, donc,
bien sûr.
Notre avion est tellement modulaire qu'il se permettra, là où on pourra le faire, d'aller au plus juste pour avoir de l'électrique, au maximum. Donc, je veux dire, il ne faut pas oublier que même l'aviation peut être un très grand vecteur.
Et voilà, l'aviation, avec votre solution, peut répondre à ces problèmes de liaison. Comme
absolument. Vous voulez faire... Là, ce que propose Jean, c'est une transition sur des axes particuliers qui seront très efficaces à court terme. par exemple, effectivement, l'Est-Ouest. Bordeaux-Lyon, on a, voilà. c'est évident que ça sera meilleur que les solutions actuelles alternatives.
Amaury Barbero.
Ouais, moi je voulais juste souligner explicite. Un chiffre, c'est que depuis 1960, les avions ont augmenté leur efficacité énergétique d'environ 80%. Donc ça fait sur 60 ans déjà un énorme progrès. Je pense que la technique peut continuer aussi dans cette lignée-là. Donc avoir même des avions aujourd'hui beaucoup moins gourmands, ça me semble être complètement possible. Et puis on est quand même dans une industrie sur laquelle 30% de la structure de coût, c'est le kérosène. Donc je veux dire, il y a un vrai driver économique qui incite les compagnies aériennes à choisir toutes les solutions qui vont leur permettre d'économiser cette facture
oui,
de kérosène.
Mais les économies technologiques seront nécessaires, elles existeront, mais vu la croissance du trafic, elle ne suffira pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir économiser, comme vous le dites, à la fois technologiquement et aussi en supprimant l'avion pour des choses inutiles, mais il va falloir aussi réparer les dégâts générés par les émissions de CO2 des avions, que ce soit par ma contribution planète telle que je propose, ou une taxe carbone, ou les deux même, je pense qu'il faudra faire les deux. Parce que vu les croissances qu'a évoquées tout à l'heure François, on ne va pas y arriver. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Et nous qui sommes des pros du voyage, de la rencontre des peuples, de la découverte, etc., eh bien, on va être pointé du doigt. Et si on ne propose pas une solution, on va se faire défoncer. Enfin, excusez-moi le terme.
Et bien, justement, aujourd'hui, on a abordé les solutions, réparer les dégâts, taxe carbone, mais aussi vos solutions. Merci à vous trois d'être venus nous parler de cet avion de demain, de nous avoir fait part de vos solutions pour réduire l'empreinte écologique de nos avions. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler sur Europe 1. Il est 13h41.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Elle a été créée en 1789. Aujourd'hui, Rostin fabrique des gants de protection, des gants anti-coupure, des gants de sécurité. Rostin est l'entreprise qui va bien, merci. Coup de projecteur sur une entreprise née en 1789 qui s'est spécialisée dans les gants de sécurité. C'est l'entreprise qui va bien. Bonjour Stéphane Rostin.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Rostin, du même nom. Vous êtes situé dans l'Ain, à Villieu, et vous fabriquez des gants de protection.
Absolument.
Alors, au début, c'était une simple tannerie. Elle date de la Révolution française, elle date de 1789. Et c'est votre père qui la transforme en ganterie. Et peu à peu, vous vous êtes tourné vers des gants techniques, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Donc, effectivement, donc, la tannerie en fait, s'est arrêtée dans les années 30-40 avec l'avènement du nylon. Le plastique a remplacé le cuir dans beaucoup d'applications. Et donc, du coup, on est parti, mon père a transformé la tannerie vers le gant de protection.
Alors, votre père qui avait fait l'école de tannerie, comme vous aussi, il a pris un virage radical et il s'est lancé dans les gants de protection. Je crois que c'était parti de votre oncle.
Absolument. Donc, en fait, lors d'un repas de famille, mon père donc, et mon oncle discutaient. Et mon oncle expliquait, il dirigeait à l'époque les fonderies, en fait. Et il manipulait beaucoup de tôles. Et du coup, il expliquait que ses employés se coupaient. Voilà, et donc il lui a demandé ce qu'il pouvait faire avec le cuir, et du coup ils ont commencé à fabriquer les premiers manchons. Et
des espèces de moufles, un peu de protection, c'est ça ?
C'est ça, des sortes de moufles, exactement. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en gants.
Donc de ganterie en gants de protection très spécifique. Jusque dans les années 90, vous étiez tourné vers l'industrie. Puis vous êtes allé, vous êtes ouvert aux particuliers, hein. Vous êtes allé vers le bricolage, le jardinage. Là, vous avez élargi un petit peu votre clientèle.
Voilà, à partir des années effectivement 90, donc c'est vrai qu'on était très tourné vers l'industrie, donc l'industrie sidérurgique, métallurgique, automobile, et puis donc on est parti sur le libre service. Donc aujourd'hui, on est leader effectivement sur tous les magasins de bricolage, jardinage, voilà. Et petit à petit, on s'oriente vers de nouvelles applications de plus en plus techniques.
Donc bricolage, jardinage, et dans les années 2000, 2005, 2010, là. Vous vous êtes orienté vers l'univers de la sécurité pour les pompiers, pour la police, avec des produits totalement innovants.
Ouais.
Quel type de produits ?
Alors, on a développé en fait de nouvelles gammes pour les pompiers, pour les militaires, la police, des produits en fait...
À chaque fois, c'est différent ou c'est les mêmes gammes ?
Non, c'est très différent. Pour les pompiers, on a développé des grandes pompiers très ergonomiques. On est parti, on n'avait presque rien sur le marché. Donc, c'est vrai qu'on est devenu leader en quelques années avec des produits très ergonomiques.
Alors, c'est quoi, par exemple, qu'est-ce qui différencie votre gant pour les pompiers et un gant pour la police ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, bon, d'un côté, on a la résistance au feu, évidemment. Mmh. Donc, c'est des produits... on a développé dernièrement des produits qui gonflent lorsque la chaleur augmente, donc ça fait un effet airbag, alors que les produits pour la sécurité et sûreté, dernièrement on a fait un produit détecteur de métaux, donc on a inséré en fait...
Avec des métaux intégrés, détecteur de métaux intégrés.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est une mini palette en fait de détection qui a été intégrée à l'intérieur en fait du gant et ça permet de faire à la fois palpation et détection.
Ah, très, 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 très pratique pour la sécurité. Et vous utilisez quel genre de matière ? À chaque fois, vous allez chercher des matériaux, parce qu'à chaque fois, c'est différent pour les pompiers, pour la police, pour le jardinage. Alors, où allez-vous chercher les matières ?
Alors, on a une cellule de recherche et développement avec des ingénieurs, en fait, en textile et en matériaux. On travaille beaucoup les méta-aramides, para-aramides, polyéthylène, haute ténacité, qui sont des produits... qu'on connaît sous le nom de marques type Kevlar, Nomex, Dyneema, voilà. Donc, et en fait, c'est une recherche qui est faite par l'ensemble de notre cellule.
Que dit notre coach Jean-François Rial ?
Déjà, moi, des entreprises qui existent depuis 1789, je trouve ça quand même fabuleux. Quoi. Et en plus, c'est encore un Rostin qui préside. Quoi. Ça a toujours été des Rostins ?
De père en fils.
Toujours ?
De père en fils.
Ils ont toujours été bons.
En tout cas, on a toujours réussi notre expérience avec les clients.
Et alors, question, vous vendez un peu à l'export ?
On fait 25% à l'export, oui.
Combien de chiffre d'affaires ?
24 millions d'euros.
24 millions d'euros. Et vous savez s'il y a d'autres entreprises qui existent depuis 1789 ? François, il a cherché ça pour nous ou pas ?
Je n'ai pas fait cette vérification, mais sûrement.
Mais c'est extraordinaire.
Entreprise familiale.
Entreprise familiale.
Oui, dans les entreprises du patrimoine vivant, on en trouve souvent, on en reçoit régulièrement dans l'émission.
Il y en a.
Alors, vous l'avez peut-être dit en début d'émission, mais vous êtes où ?
À côté de Lyon, à Villieu-Loimolon.
Ouais, ouais, d'accord.
Dans l'Ain. Et alors, il paraît que vous travaillez avec énormément de pays, mais avec les États-Unis ou la Chine, c'est un peu compliqué.
Ah oui, absolument.
Dans ce domaine, pourquoi ? Vous avez beaucoup de concurrents, ils n'ont pas besoin de vous ou...
Alors, pour la Chine, c'est compliqué parce qu'effectivement, ils sont producteurs et donc c'est difficile d'aller sur leur territoire.
Et pour les États-Unis ?
Et les États-Unis, c'est le protectionnisme à outrance, donc compliqué.
Et des gants fabriqués en matière naturelle, complètement biologique, ça fait partie de vos plans, ça ?
Absolument,
ça existe,
absolument. Particulièrement dans le libre-service, donc pour les consommateurs, on a cette volonté d'aller vers... des produits de plus en plus naturels, recyclables, et effectivement avec des matières. On a développé des gants avec qui sentent l'eucalyptus, avec des matières naturelles.
Vous êtes diversifié. Hein.
On essaye de se diversifier.
Ouais. Donc des gants avec des détecteurs de métaux intégrés ou encore des gants à l'eucalyptus. Merci Stéphane Rostin d'être venu nous présenter Rostin et d'avoir su nous en parler avec autant de passion.
Merci.
Il est 13h49. Europe 1. Elisabeth Assayag. Partir en vacances avec son bébé, mais sans devoir remplir une dizaine de valises, c'est la solution du jour. Dans un instant, ça s'appelle Gypsy Baby.
Voyager léger avec un bébé, c'est possible. C'est la solution Gypsy Baby dont la France bouge.
Et oui, parce que les vacances, bon, c'est bien, hein, mais en famille, avec un tout petit, ça peut vite se transformer en cauchemar, hein, tellement il faut emporter de vêtements, de jouets, de matériel, de nourriture. Bref, une caravane entière, mais à tout problème, sa solution. Et François Geffrier, vous en avez trouvé une bonne.
Oui, l'idéal serait de tout trouver en arrivant sur son lieu de vacances. Ça tombe bien, c'est ce que propose le site Gypsy Baby. Bonjour Sarah Gerlicher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de cette plateforme. Alors comment ça marche, Gypsy Baby ?
Alors comment ça marche ? C'est très simple. Les familles viennent sur le site, sur notre site, donc Gypsy Baby. Elles renseignent leur date de vacances, l'âge de leur enfant et la durée du séjour. Et en fonction de ces trois questions toutes simples, on leur propose six sacs, six offres différentes qui sont déjà pré-composées. On a cette offre-là principale et là, on a développé une deuxième offre où c'est elles qui peuvent composer elles-mêmes, ces familles, qui choisissent tous les produits qu'elles veulent mettre dans leur sac.
L'idée vous est venue parce que vous avez eu vous-même ce besoin, en fait.
Complètement. On a eu un bébé il y a un an et demi. avec mon mari. Et on a vite été amenés à voyager avec, avec notre bébé qui avait 2 mois et demi lors de, de notre premier voyage. Et on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué, les voyages avec les tout-petits, l'équipement lourd, mais aussi le consommable, les habits. Enfin, c'est un vrai déménagement. Et donc, on a voulu trouver une solution toute simple à ce problème que rencontrent beaucoup de familles.
On peut le voir, là, un exemple de votre cabas Gypsy Baby, là, en direct sur Europe1.fr.
Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans, alors, dites-nous?
Alors, on trouve du consommable. Le consommable, quand je parle du consommable, on parle des couches, on parle des produits alimentaires, les produits de toilette pour bébé. Et on trouve également tout le reste, comme les jouets. Les serviettes de bain, les matelas, le matelas allongé pour pouvoir changer son bébé n'importe où. Voilà, tous ces produits qui sont indispensables quand on part en voyage, qui prennent beaucoup de place dans une valise et qu'on a envie de retrouver. Et bon, là, on a voulu trouver une alternative pour qu'on n'ait plus à les transporter, pour que ce soit moins lourd dans notre valise, mais de les retrouver directement sur notre lieu de vacances.
Et quand vous... Quand vous parlez de voyage, Sarah, c'est où? C'est la France? C'est le monde entier?
C'est vraiment...
La Guinée-Bissau?
C'est la Guinée-Bissau, c'est la France, c'est Strasbourg, c'est Cannes.
Vous livrez partout, quoi?
On livre partout. D'accord. On livre partout. Les familles qui voyagent, il y en a partout. Mm-hmm. On s'adresse à la fois aux Français qui voyagent en interne, en France, mais aussi aux Français qui voyagent à l'extérieur, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, n'importe où. Mais aussi aux internationaux, aux touristes qui viennent en France. Propose ce service et il faut savoir qu'on propose que des produits français.
Alors justement, pourquoi ce choix de produits français?
On est en France, moi je suis la fondatrice, je suis française, on a pris le parti de mettre en avant que des acteurs français, de proposer que des... On s'adresse quand même à une clientèle très particulière, les utilisateurs finaux sont des bébés, donc on voulait proposer la meilleure qualité pour nos clients. Et voilà, vu qu'on est français, on s'est dit que la meilleure solution, c'était qu'ils retrouvent des produits de haute qualité directement sur leur lieu de vacances.
On précise que c'est bien de la vente, hein, c'est pas de la location.
Alors, effectivement.
Je parle pas des couches. Hein.
Alors, oui, évidemment. Oui, c'est que de la vente.
Ça coûte combien?
C'est uniquement de la vente. Le premier prix, on commence à 53 euros. Donc, c'est abordable.
Ouais. 53 euros, ça veut dire un point au week-end,
euros,
veut dire.
Voilà, alors on a deux premières offres qui sont très abordables, qui est My Holiday... pour un week-end et My Holiday pour une semaine. Et là, vous retrouvez uniquement les essentiels, c'est-à-dire le consommable pour votre bébé, des produits adaptés à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que si vous avez un bébé de 4 mois, vous ne recevrez pas les mêmes produits que si vous avez un enfant de 2 ans. Et donc, pour un week-end, c'est à partir de 53 euros et pour 7 jours, c'est 99 euros.
Mais tout acheter pour juste un week-end, est-ce que ça ne rentre pas un peu dans la logique de l'hyperconsommation, du jetable?
Alors là, pour le consommable, non, puisque vous utilisez tout sur place, il y a zéro déchet. Il y a zéro déchet.
Acheter des jouets juste pour le voyage, c'est...
Alors, pour le reste, effectivement, c'est des produits en plus que vous allez retrouver sur votre lieu de vacances. Donc, ça peut faire partie... c'est comme quand vous vous rendez dans une ville ou dans... Voilà, vous partez, vous êtes en voyage et vous avez envie, vous achetez des choses sur place.
Vous revenez. Vous les mettez directement dedans.
Sauf que là, je vous les mets directement dans votre chambre d'hôtel. Et pour les clients français, on a pensé à une solution. On est en partenariat avec des associations, dont la Croix-Rouge.
Pour redonner ce qui reste.
Distribuer.
Et puis, il peut les ramener aussi, s'il veut.
Évidemment.
Vous avez noué des partenariats avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez là. Enfin, pour tous les produits, il y a plein de marques différentes.
On a noué beaucoup de partenariats, d'une part avec les marques qu'on met en avant, et aussi d'autre part parce qu'on s'adresse au B2C et au B2B.
Donc aux consommateurs, mais aussi aux professionnels.
Mais aussi aux professionnels. Donc on a noué aussi beaucoup de partenariats avec les hôteliers. Mm-hmm. Les hôtels apprécient beaucoup ce nouveau service.
Par exemple.
Des noms d'hôtels,
ouais.
Par exemple le Marriott.
Marriott.
Le Marriott, le Hyatt, voilà ce genre. Okay.
Donc ça reste haut de gamme, hein. C'est très haut de gamme.
Ça reste haut de gamme et un tarif raisonnable.
Vous avez démarré depuis combien de temps?
On est tout jeune, on a démarré depuis octobre 2018.
Combien de clients déjà?
Pour l'instant, on est à 1000 clients.
C'est pas mal.
C'est bien. Hein.
C'est bien, 1000 clients en 3
et
mois.
Et le site n'est disponible que depuis le mois de janvier.
Non, c'est bien.
Oui, ça fait 6 mois, mais c'est bien. Hein. C'est
bah
très,
ouais,
très
c'est bien.
Merci en tout cas d'avoir été avec
Merci
nous, Sarah Gerlicher. Vous êtes donc la fondatrice de Gypsy Baby. Merci à vous, Jean-François Rial,
Merci
notre coach. Hein, je rappelle que vous êtes le président de Voyageurs du Monde.
Europe 1.
Voilà, et La France Bouge revient demain. Tout de suite, juste après les informations, vous retrouvez Christophe Ondelatte.